Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver tous les vendredis. Vous le savez, on parle de l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage, d'un héros de bande dessinée très emblématique qui a marqué notre jeunesse. Et quand je dis qui a marqué notre jeunesse, je peux être très large parce qu'en fait, il a marqué plusieurs générations. Il s'agit de Raon. Raon, fils de Krao, le Cro-Magnon blond qui est né dans les pages de Pif Gadget il y a tout juste 50 ans. Pour nous en parler aujourd'hui, à l'occasion de la réédition de toutes les aventures de Raon dans des albums luxueux, 26 au total, aux éditions Soleil, notre invité est l'universitaire et journaliste Romain Brett et nous aurons au téléphone un autre amateur de Raon, un admirateur de longue date, le dessinateur Christophe Blin.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Romain Brett, vous êtes spécialiste de la bande dessinée, mais universitaire d'abord, avant d'écrire pour Le Point. Raon, ça vous évoque quoi ?
Raon, ça m'évoque d'abord des souvenirs d'enfance, quand j'avais une dizaine d'années, quand j'allais acheter mon Pif Gadget, donc avec mon père, et que je découvrais notamment les fameux gadgets, et parmi ces gadgets, il y avait celui iconique du coutelas, notamment, que j'ai gardé très longtemps.
Le coutelas de Raon.
Ouais, le coutelas de Raon, qui symbolise ce personnage. Et donc ça m'évoque cela, mais ça m'évoque aussi évidemment un personnage qui m'a accompagné assez longtemps et que j'ai eu grand plaisir à retrouver il y a peu de temps, donc à l'occasion de la réédition donc des aventures de ce personnage pour fêter ses 50 ans. Raon, il représente beaucoup de choses. D'abord, c'est un personnage qui a été créé de manière un peu par accident, comme un grand nombre de héros ou de protagonistes de bandes dessinées, puisque à l'origine, André Chéret, le dessinateur, voulait faire un Gaulois. Il avait l'idée de faire un Gaulois. C'était Astérix avait 10 ans à ce moment-là, nous sommes en 1968 à peu près. Et donc, il avait dans l'idée de faire un Gaulois. Donc, il a ce personnage blond pour lequel il fait des essais et qu'il veut proposer à Pif Gadget. Enfin, à Pif, qui n'est pas encore Gadget, à Pif. Et de l'autre côté, vous avez Roger Lécureux, qui est le scénariste, qui lui a dans l'idée de faire une bande dessinée préhistorique. Et donc, ils vont créer ce personnage qui incarne aujourd'hui, je dirais, une forme d'idéalisme, on pourrait dire. C'est un héros parfaitement positif. Mais
progressiste.
Hein. Oui, progressiste.
Hein, bien sûr. Et en même temps, c'est Pif Gadget. Hein.
C'est Pif Gadget. On est évidemment Pif. On est en 68. Bon, Pif Gadget appartient au Parti communiste. Donc, c'est un héros qui, comme beaucoup de héros à cette époque, incarne des valeurs positives, progressistes, un humanisme, on peut le dire. Voilà. Mais c'est une bande dessinée qui, lorsqu'on se replonge aujourd'hui dedans, n'est pas exempte d'aspérité ou de complexité qui n'apparaissait peut-être pas à l'enfant que j'étais alors, mais qui évidemment apparaissent davantage à l'adulte que je suis devenu.
Par exemple,
le rapport de Raon aux autres hommes, puisque Raon est un personnage finalement très solitaire, errant. Il marche donc toujours vers le soleil, dit-il, puisque c'est le soleil qui guide un petit peu ses pas. Il rencontre évidemment énormément de personnages et d'humains, mais c'est un personnage éminemment seul, qui est un orphelin, puisqu'il a perdu par deux fois ses parents. Il a perdu ses parents biologiques, qui sont morts alors qu'il était tout bébé, en le défendant contre des animaux. Et puis il a perdu une deuxième fois ses parents adoptifs, notamment Krao, le fameux Krao, son père, qui l'a formé. Et donc c'est un personnage qui est un personnage éminemment seul. Et c'est drôle parce que quand j'ai lu Raon, m'est venue en fait aussitôt une phrase de Pasolini que j'aime beaucoup, qui est « mon indépendance, qui est ma force, implique la solitude, qui est ma faiblesse », en fait. Et c'est drôle, parce qu'en lisant Raon, cette phrase de Pasolini m'est venue en tête, parce que c'est exactement Raon, c'est-à-dire une indépendance, voilà, il est seul, et donc c'est aussi sa force, mais il y a une vraie solitude chez Raon, puisqu'il reste finalement assez peu chez les tribus qu'il rencontre, et inlassablement, il avance. Alors c'est un peu, je dirais, son... c'est un peu son destin, parce que la vocation, je pense, de Raon, telle que l'avait pensé Roger Lécureux, c'était aussi cette idée de transmission de savoir. C'est-à-dire que Raon, à chaque fois qu'il arrive, donc, est celui qui va dissiper l'obscurantisme, dissiper la superstition. Bon, c'est un personnage qui apporte évidemment une forme de lumière partout où il va, et donc il a vocation à diffuser ce savoir partout où il va. Donc, de fait, il ne peut pas rester, il ne peut pas être sédentarisé, il est obligé d'être nomade, et donc il va diffuser ce savoir, et je crois que c'est sa vocation première, mais c'est un petit peu aussi, d'une certaine façon, sa punition, parce qu'il ne peut pas rester sur place, parce qu'il est inlassablement appelé à être cette incarnation du savoir, cette incarnation de la découverte, dont il entend faire profiter tous les hommes, en fait.
Romain Brett, une de nos collègues de France Inter, a dit que Raon était de gauche comme Tarzan est de droite. Est-ce que cette comparaison vous paraît appropriée?
Je ne sais pas si on peut politiser les héros de bande dessinée.
Non, mais au moins, elle dit que Raon a été créé en opposition à Tarzan.
Oui, alors Tarzan, je pense qu'il y a évidemment tout le contexte à la fois du colonialisme, enfin de la question raciale, hein, qui se pose évidemment quand a été créé le personnage. Dans le cas de Raon, il a des valeurs incontestablement qui sont la générosité, bon, qui sont incarnées dans les fameuses griffes du collier, hein, puisque les griffes du collier sont censées incarner les valeurs qu'il doit défendre et qu'il s'est engagé à défendre auprès de Crao. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu très peu d'ouvrages écrits sur Raon, en fait, de littérature secondaire. C'est pas un personnage qui a énormément intéressé les universitaires, ou à la différence, bon, évidemment, de Tintin, bon, ou d'autres héros de ce type. Mais pourtant, je pense que c'est un héros qui n'est pas exempt d'intérêt. Il incarne ses valeurs, donc, de générosité, de loyauté. Il a été créé à une époque, évidemment, où il y a une domination, entre guillemets, de la gauche sur la vie intellectuelle ou la vie artistique, dans les années 60, post-68. Donc, on crée des personnages qui évidemment, il est créé dans la foulée de mai 68, Raon. Donc, bien évidemment, il est tout à fait orthodoxe de ce point de vue-là. Et il respectera ses valeurs tout au long, je dirais, de sa vie, qui a été finalement assez longue, puisque après la mort de Roger Lécureux, son fils, en 2000, a repris les scénarios. Donc, c'est un personnage qui a une vie très longue. Raon de gauche.
Par opposition à Tarzan.
Par opposition à Tarzan.
Ça vous fait sourire.
Ça me fait sourire parce que moi, je crois surtout que c'est un personnage qui est assez universel et qui est assez intemporel. Et c'est ça qui me frappe beaucoup, surtout. Parce que quand j'ai relu Raon, je l'ai fait lire à mon fils de 10 ans, qui, comme tous les enfants de cet âge, est plongé dans les mangas majoritairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette tranche d'âge consomme du manga beaucoup plus que toute autre forme de bande dessinée. Or, il s'est plongé dedans, mais il s'est immergé. C'est-à-dire qu'il était totalement fasciné par ce personnage. Et c'est ça qui m'a aussi donné envie d'écrire sur Raon, parce que c'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout marqué auparavant. Il y a un côté, il faut le dire, il y avait un côté sans aucun caractère péjoratif. Il y a un côté un peu ringard de Raon aujourd'hui, qui est un personnage qui apparaît un peu naïf, bon, sans épaisseur, bon... Mais en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'univers dans lequel il évolue, les valeurs qu'il incarne, le rapport qu'il entretient avec les hommes et avec la nature, quelque chose qui, aujourd'hui, m'apparaît tout à fait contemporain, tout à fait moderne, parce que c'est quelqu'un qui s'interroge sur la nature, sur son rapport à la nature, sur le rapport qu'il entretient avec les hommes, sur la violence des hommes, parce que Raon est quand même une bande dessinée assez violente, je l'avais oublié. Quand j'ai relu Raon, c'est une bande dessinée très violente. Il faut pas oublier que Roger Lécureux le fait mourir en 1977 dans une bande dessinée qui m'avait profondément marqué.
Qui nous a tous marqué. Effectivement, voilà. C'est la première fois qu'on parle de la mort aux enfants, qu'un super-héros va mourir, et puis record de vente de pif qui atteint le million d'exemplaires.
C'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette mort de Raon.
Fausse mort de Raon,
mais alors représentée de manière vraiment très réaliste. Et c'est ça, je crois, qui a pu marquer toute une génération de lecteurs, et marquer de façon extrêmement réaliste. Et puis surtout, moi, ce qui m'a profondément marqué, c'est pour ça que c'est peut-être ces valeurs de gauche qui semblent incarnées, peut-être, je ne sais pas, mais c'est la conséquence de sa mort, c'est-à-dire extraordinaire, c'est-à-dire l'ensemble des tribus qu'il a rencontrées, qui, à la nouvelle de sa mort, se rassemblent, pour honorer sa mémoire. Bon, on parle de Notre-Dame, c'est les funérailles de Victor Hugo à Paris, la mort de Rahan, c'est quelque chose de ce type, hein, en fait, pour moi. C'est-à-dire toutes ces tribus auxquelles il a apporté le savoir, auxquelles il a apporté une forme de paix et de connaissance, qui se rassemblent pour honorer sa mémoire. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est assez unique dans la bande dessinée contemporaine. Alors, c'est vrai que c'est une fausse mort, mais je dirais qu'à travers cette fausse mort, il y a tout ce qu'incarne Rahan qui est incarné finalement dans la bande dessinée. Et moi, je trouve que cet épisode-là en particulier est un monument à la bande dessinée contemporaine.
Comment Rahan a évolué, Romain Brac ?
Finalement, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il évolue assez peu. C'est-à-dire que c'est un personnage, alors qui évolue assez peu. C'est un personnage qui reste assez constant, c'est-à-dire que les histoires qui étaient conçues, il faut quand même le rappeler, pour être éditées en magazine. La première fois, je crois, que Rahan est édité en album, c'est 1984. Donc c'est 15 ans après sa naissance. Hein. Donc à l'origine, c'est quand même un rythme qui était celui des bandes dessinées dans les années 60-70, qui est celui des magazines. C'est un personnage qui finalement reste assez constant dans ses engagements, dans ses valeurs. De ce point de vue-là, il évolue assez peu, mais je crois que c'est précisément ce caractère un peu répétitif qui a fait son succès aussi. C'est-à-dire qu'on s'attendait à voir Rahan se confronter à des animaux, rencontrer des hommes ou des peuplades qu'il n'avait jamais vues, inventer des nouveaux objets, parce que Rahan, c'est peut-être sa première caractéristique, est un extraordinaire inventeur. Il y a un petit côté Léonard de Vinci, hein, dans Rahan, dans cette observation de la nature, hein, comme le faisait le vieux Léonard, donc l'observation de la nature, la fascination pour la nature, pour les animaux, et l'envie de reproduire finalement cela, ou de comprendre les mécanismes de la nature. Donc il y a ce côté, je dirais, un peu mécanique dans le personnage, qui fait que c'est un personnage qui, du point de vue peut-être un peu psychologique, évolue assez peu. Rahan ne tombe pas amoureux, par exemple, même s'il y a un épisode où où on sent qu'il est troublé par une jeune femme, mais c'est un personnage qui ne tombe pas amoureux. Il évolue finalement assez peu, mais je crois que c'est précisément ce qui a fait son succès, cette constance, ce caractère entre guillemets un peu mécanique, mais qui n'est jamais froid. C'est un personnage qui par sa fougue, par sa générosité, je crois, permet de compenser justement peut-être ce manque de entre guillemets d'épaisseur psychologique. Faut pas oublier que c'est quand même un homme préhistorique, hein, Rahan. Donc l'épaisseur psychologique, de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui relève de la littérature romanesque du 19e siècle. Donc en faire un personnage qui est surtout mu par ses instincts finalement, ou par ses sensations, c'est quelque chose finalement d'assez cohérent avec ce qu'il est, me semble-t-il.
Rahan, fils de Crao, Rahan, fils des âges farouches, et bien l'enfant de Lycureux et de Chéré, quelle est la part du dessinateur et du scénariste dans la fabrication de ce mythe, de ce héros de bande dessinée ?
Le trait, il faudrait pas oublier évidemment le trait d'André Chéré, qui a contribué pour beaucoup au succès de Rahan. Le trait de Chéré est un trait extrêmement généreux, assez sensuel. Rahan plaisait à un public féminin, hein, donc il y avait un désir. Enfin, il peut susciter un désir, hein, un Rahan. Bon, il est parfaitement proportionné. Il y a un article qui m'a beaucoup inspiré quand je réfléchissais à Rahan, un article de Christine Kosaifi, qui est une antiquisante et qui a fait une comparaison entre Vitruve, le grand théoricien de l'architecture, de l'harmonie, de l'équilibre, et la série Rahan. Alors c'est un article tout à fait éclairant, où elle montre que le souci d'équilibre, de symétrie, qui est propre à Vitruve, hein, on sait que son homme parfait, c'est le modèle pour Léonard de Vinci. Hein, bon, et donc de ce souci de l'équilibre, il se trouvait également dans le physique de Rahan, mais également dans l'univers de graphique de Chéré, avec un corps qui est un corps donc évidemment sensuel, parfait, mais aussi dans l'équilibre de la planche, le traitement graphique des éléments naturels, où il y a une luxuriance extrême. Hein, si vous lisez Rahan, vous vous perdez dans les pages. C'est un univers extrêmement luxuriant, très 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 riche. Et donc, la part du dessin, hein, la part de ce personnage blond, il faut pas oublier qu'il est blond, que ses cheveux de feu, il est appelé cheveux de feu par les autres hommes, là où tous les hommes quasiment sont bruns. Hein, donc c'est quand même une de ses singularités. Graphiquement, il y a une marque immédiatement reconnaissable, il y a une patte reconnaissable hein, de Chéret. Et la rencontre des deux mondes, hein, celui de l'écureux et le trait de Chéret, a créé un univers qui, pour moi aujourd'hui, relève, on peut le dire, du mythe en bande dessinée. Hein. Rahan est une forme de mythe aujourd'hui en bande dessinée. On en parle moins évidemment que Tintin ou d'Astérix comme mythe hein, ou incarnation, mais quand vous citez Rahan à peu près n'importe qui, c'est absolument qui c'est. Hein. Il n'y a pas beaucoup de héros de bande dessinée dont on peut parler avec à peu près n'importe qui, donc d'une génération évidemment, bon, une génération de au moins de trentenaire ou quadragénaire. Mais même les jeunes générations, entre guillemets, de 20 ou 30 ans, sans avoir lu la bande dessinée, ont aussi pu connaître le personnage par une série de dessins animés qui avait été diffusée dans les années 2000 et qui a pas mal marché à la télévision.
Et nous avons au bout du fil avec nous Christophe Blin. Bonjour Christophe Blin.
Bonjour Tofik Hakem.
Alors, il paraît que vous aussi, vous êtes un grand fan de Rahan.
Absolument. Je suis un grand fan de Rahan qui l'a découvert tout petit et qui a eu un choc esthétique majeur. Un vrai choc, c'est très choquant Rahan quand on est gamin. Et c'est justement ça qui crée une forte fascination. Je ne sais pas du tout ce que ça donne quand on lit adulte, mais gamin, ça marche à fond parce que c'est une bande dessinée extrêmement énigmatique, à tout point de vue, tant du point de vue des histoires que du dessin, qui est formidable et très difficile à identifier avec des obsessions et des façons de montrer les choses que je n'ai trouvées dans aucune autre bande dessinée.
Par exemple ?
Eh bien, bah déjà, la représentation, ce sont des hommes préhistoriques, et évidemment, c'est une représentation totalement fantaisiste, mais c'est raconté et dessiné d'une telle façon que ça donne l'impression que c'est réaliste, alors que ça ne l'est pas du tout. Imaginez un homme préhistorique comme Rahan, athlétique, grand, avec un petit slip en peau de je ne sais plus de quoi, de gorak, d'un animal, et avec un coutelas en ivoire et des longs cheveux blonds. C'est tout ce qu'il porte sur lui comme vêtement et qui va de tribu en tribu. Il erre dans la nature au hasard. Il demande à son coutelas, il le fait tourner sur une pierre pour que le coutelas décide, le hasard décide de l'endroit où il va aller. Et il va à la découverte du monde et il va enseigner, il va apprendre des gens qu'il va rencontrer. Et il va leur enseigner des choses parce que Rahan est tellement intelligent, c'est un surdoué qui invente le parachute, la dynamite et la démocratie à l'âge de, on ne sait pas bien quel néandertal, on ne saurait pas le définir. Il a un physique légèrement différent d'une autre parce qu'il a des arcades sourcilières très développées, mais c'est un vrai surhomme. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas comment le définir, d'humaniste, d'étrange, qui fait croire que ça pourrait être quelque chose de réaliste parce qu'ils sont... Tous les personnages, et Rahan en premier, ont des préoccupations très humaines, très effrayantes, parce qu'ils vivent dans un monde sauvage. Et en même temps, la façon qu'ils ont d'y résister, d'essayer d'être civilisés, est tout à fait étrange. Et Rahan est solitaire, mais il rencontre des tribus qu'il essaye de civiliser encore plus. Puisque, par exemple, il leur apprend la démocratie, il leur apprend à voter, il leur apprend à lutter contre les... Souvent, ils ont un problème qui est dû à un problème de catastrophe, enfin de naturel, de l'endroit où ils vivent. Parfois, des monstres. Il y a des animaux préhistoriques qui, évidemment, ne correspondent absolument pas
aux époques.
À l'époque. Ouais. Oui, puisque les hommes préhistoriques sont beaucoup plus proches de nous, ils n'ont pas plus de chances de connaître des animaux préhistoriques que nous, en fait. Des dinosaures. Voilà. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est une bande dessinée qui est destinée aux enfants et qui est emplie d'une violence complètement débridé et de sexe aussi. Alors le sexe n'est jamais montré directement, il est même montré de manière assez malicieuse puisque Chéret mettait des messages subliminaux dans ses dessins. Il y a notamment une planche qui, après, pour les fans, a été assez célèbre, où il dessine Rahan qui a rencontré une femme. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, mais on devine, elle se rhabille de sa peau de bête. Et donc, on devine qu'il s'est passé des choses. Elle lui demande de rester, lui, il doit partir, parce que il veut aller à la découverte du monde. Il ne peut pas s'installer en couple, bien qu'il il trouve qu'elle est vraiment très sympa, très jolie, mais bon, il faut qu'il tranche. Et dans le fond du dessin, dans l'arrière-plan, il y a des collines qui sont représentées. Et en fait, quand on le regarde bien, les collines sont des cuisses de femmes écartées. Et Toufik, relisez-le et vous allez voir qu'en fait, c'est plein de messages érotiques subliminaux. C'est très sensuel, très physique et très brutal, Rahan.
Est-ce que le trait de Chéré vous a marqué d'une manière ou d'une autre, Christophe?
Énormément, parce que, alors, il y a quelque chose, quand on est enfant et qu'on est un enfant qui dessine, un enfant, un adolescent qui dessine et qui est particulièrement, tous les enfants dessinent, mais évidemment, moi, j'étais plus versé que les autres là-dessus, on recopie, on a envie de copier ses idoles. Et alors, j'ai recopié du Lucky Luke, du tout ce que vous voulez. Rahan, c'était extrêmement difficile, parce que Chéré, il emploie la voix la plus dure, c'est-à-dire que tous ses personnages sont nus. Quasiment. Ils sont pas tout à fait nus, mais c'est toujours c'est des gens à poil. C'est ce qui est plus difficile à dessiner sur de manière réaliste.
Et pourtant, vous avez un point en commun, c'est que vous adorez dessiner les mouvements. Et il y a toujours des scènes d'action. C'est tout en mouvement. Tout est en mouvement dans les aventures de Rahan.
Ces planches sont d'une extraordinaire souplesse physique, énergie et fluidité. Et effectivement, particulièrement Rahan est un personnage incroyablement fluide et souple, même sa chevelure, on l'appelle cheveux de feu. Parce qu'il y a il y a un vocabulaire dans Rahan qui est d'une poésie folle, parce que chaque animaux, phénomène physique et personnage a un surnom. Les crocodiles s'appellent peau de bois, les requins sont des peaux bleues, et Rahan qui a une longue chevelure blonde, alors qu'il n'y avait quasiment pas de blond, il rencontre très peu de blond dans son univers, on l'appelle cheveux de feu.
Mmh. Et, l'enfant des âges farouches, c'est beau, c'est poétique.
Oui,
en plus.
Qui est le fils adopté de Krao, enfin, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est donc très marquant, même d'un point de vue du vocabulaire, et très intelligent, parce qu'on a l'impression d'apprendre quelque chose quand on est gamin. On se doute bien que ça ne raconte pas quelque chose, j'allais dire, préhistorique, d'historique, enfin, quelque chose qui peut correspondre à une vie réelle des hommes préhistoriques de cette époque-là, mais on a quand même l'impression d'apprendre quelque chose. C'est ça aussi qui donne un sentiment de réalité quand on est gamin. Et la violence est omniprésente, c'est-à-dire que quand ils se battent avec des animaux sauvages, quand ils tombent dans une rivière, il y a des scènes, je pense que tous les lecteurs de Rahan, les lecteurs et lectrices de Rahan peuvent se souvenir de ça, parce que ça marque énormément, c'est des images qui frappent et que vous gardez toute votre vie. Quand un homme tombe dans une rivière qui est infestée de piranhas, il se fait dévorer, et on voit les images de l'homme se faire dévorer, et il est démembré, les os apparaissent à nu, il est à moitié, il n'est pas complètement réduit à l'état de squelette, il est à moitié, ce qui est encore pire. Enfin, c'est des images qui sont gore. Rahan est assez gore. Et le traitement des couleurs était assez étonnant aussi, parce que, alors, je ne sais pas s'il était maîtrisé par Chéré lui-même, mais il y avait des choix qui étaient très hardis, assez culottés. Des fois, les hommes étaient représentés de manière abstraite en bleu. Il y avait des choix de couleurs parfois qui étaient très abstraits, mais qui ne gênaient pas la lecture. On l'admettait tout à fait. C'était des codes couleurs de l'époque comme ça qui étaient très frappants. Ouais. Et ce Rahan des années 70, c'est vraiment la grande période de Rahan, c'est de sa création. Je crois que c'est 69, si je dis pas de bêtises.
Bah oui, c'est les 50 ans de Rahan. En voilà. Fait, les 50 ans de Rahan, Christophe Blanc, et avec vous.
Oui, oui.
Vous parlez des couleurs, et effectivement, on est dans les années 70 avec Rahan. Et pour terminer, Christophe Blanc.
Eh ben, Rahan m'a énormément marqué dans mon propre travail, pour en parler, même si je ne le cite pas, je ne me suis jamais inspiré directement du trait de Chéré. En réalité, je le cite de manière cryptée. Il m'arrive très souvent de faire une référence émouvante à Rahan, et la chose qui me manque, c'est que André Chéré est toujours vivant, le curieux, le scénariste est mort. Malheureusement, j'ai pas pu entrer en communication avec lui, et j'ai pas pu lui parler, parce que il a eu des problèmes de santé, il a eu un AVC, je crois. C'est un des grands regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir pu parler de cette fascination avec ce monsieur, pour lequel j'ai une grande admiration, qui n'est pas considéré comme un dessinateur majeur, mais qui, je je crois que tous les lecteurs qui ont été lecteurs enfants ont été très très marqués par cette série et les a profondément touchés. Et elle vous apprend, elle vous rend intelligent. Ça fait partie des trucs qui vous marquent enfant et qui développent votre votre imaginaire et votre intelligence. Je trouve que c'est une très très
et on est d'accord.
Une bande dessinée majeure.
On est d'accord. Merci beaucoup Christophe Blain. Merci d'avoir participé à cette émission pour fêter la réédition des aventures de Raon. Pour marquer le cinquantenaire de sa naissance. Quelle histoire que l'histoire de Raon. Alors justement, ce week-end, c'est le week-end Imagine, c'est-à-dire le festival de France Culture et du Centre Pompidou Beaubourg. Si vous êtes parisien ou si ce week-end vous êtes de passage à Paris, surtout venez, rejoignez-nous les samedis et dimanches de 11h à 22h pour un marathon radiophonique où il y aura des performances, des masterclass. Tout ça, bien sûr, autour de la grande exposition de Beaubourg pour cet été, l'exposition Préhistoire, une énigme moderne. Je serai ravi de vous retrouver samedi après-midi dans une des tables rondes, mais sinon, il y aura aussi une performance de Chloé Delhomme, des enregistrements de notre nouvelle émission de jeu, l'épingle du jeu, avec des vieux papous et des nouveaux venus. Si vous voulez avoir le détail, vous avez tout à votre disposition à la page franceculture.fr. Et si vous voulez assister à l'enregistrement de l'épingle du jeu au Centre Pompidou dans le cadre du festival Imagine, quelle histoire, c'est tout à fait gratuit, mais vous êtes obligé de vous inscrire auparavant en passant par franceculture.fr. Bref, on se retrouve ce week-end et on se retrouve pour un nouveau réveil culturel lundi. Bonne matinée sur France Culture.